Alors aujourd'hui, on commence notre introduction au Nouveau Testament. Et la première partie que nous allons regarder ce soir, c'est l'espérance messianique. Alors, plusieurs choses sont nécessaires avant d'entreprendre l'étude de chacun des 27 livres du Nouveau Testament. Nous devons nous rappeler tout ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament sur la première venue de Christ. Nous devons aussi comprendre ce qui s'était passé historiquement pour les Juifs durant la période de 400 ans après Malachie et l'arrivée de Christ. Et nous devons également connaître le cadre historique du Nouveau Testament. Autrement dit, quelle était la situation d'Israël lors de la parution du Messie? Donc, on va consacrer les trois prochaines études à ces sujets-là. Premièrement, l'espérance messianique. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé sur Christ dans l'Ancien Testament? Alors, ça, c'est ce soir. La semaine prochaine, ça va être la période intertestamentaire. Autrement dit, les 400 ans de silence. Quand le livre de Malachie était écrit, il y a eu 400 ans où le Seigneur ce n'est pas manifesté d'aucune façon. On l'appelle les 400 ans de silence. Donc, c'est la période intertestamentaire entre les deux, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la troisième chose qu'on va regarder dans la troisième semaine, ça va être le cadre historique. Autrement dit, dans quelle situation le peuple d'Israël était et quelle était la préparation que Dieu avait faite pour l'arrivée du Messie. Alors, la situation des Juifs lors de la première venue de Jésus-Christ. Alors, l'espérance messianique dans l'Ancien Testament. Le mot « Messie » est la simple transcription du mot hébraïque « Meshaya » qui signifie « oint ». La version des Septante et le Nouveau Testament grec traduisent par le terme « Christos » qui a la même signification. Dans nos versions françaises, le mot est généralement traduit par « oint ». Et nous avons par exemple « loin de l'Éternel » que l'on pourrait aussi bien rendre par le Messie de l'Éternel ou le Christ de l'Éternel. Dans la traduction du Nouveau Testament, on a préféré simplement transcrire le mot Christos par Christ, parce que ce terme est devenu un véritable nom propre, s'appliquant à la personne humaine et divine de celui qui a parfaitement été loin du Seigneur. Au début, on appelait « Messie » tous ceux qui étaient mis à part pour certains ministères, dont le symbole et le signe étaient une onction d'huile sacrée. Ce terme est également appliqué au patriarche, à Cyrus, au souverain sacrificateur d'Israël, au prince messianique et surtout au roi, qui à travers l'histoire d'Israël est loin de l'Éternel, ou loin du Dieu de Jacob quand il s'agit d'un descendant de David. Les caractères généraux de l'espérance messianique. L'espérance messianique apparaît très tôt dans l'histoire de la race humaine et est présentée dans tout l'Ancien Testament comme ayant sa source en Dieu. Cette espérance est donnée à l'homme. Ainsi, les ministères dont le signe est une onction d'huile témoignent de l'intention rédemptrice de Dieu. Tout homme ayant reçu l'onction, qu'il soit patriarche, prophète, prêtre ou roi, est un agent du Dieu sauveur. L'espérance nationale s'intensifia quand la révélation devint plus précise et concentra les aspirations de toutes les générations sur une seule personne. Pendant longtemps, le terme « Messie » n'a pas désigné de façon absolue le roi qui devait venir, puisque, comme nous l'avons vu, il est donné à Cyrus, le libérateur des Juifs exilés. Mais il est certain qu'avant l'ère chrétienne, le titre désignait de façon précise un fils de David, le roi Messie, dont le peuple juif attendait la venue. Nous pouvons également remonter le courant de la révélation depuis Jésus lui-même jusqu'aux premiers indices d'une promesse de rédempteur divin. Nous possédons la clé de tous les mystères de la révélation et les allusions variées de l'Ancien Testament à délivrance messianique peuvent être interprétées maintenant à la lumière de leur accomplissement. On peut ainsi identifier les semences quand les fleurs sont écloses. L'espérance messianique conduit à un but, la consommation de l'histoire du monde, la venue du royaume de Dieu et de son Messie. L'espérance messianique a de larges fondations, elle est progressive et historique, elle vient de Dieu et non de l'homme. Elle progressa jusqu'à l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu en Jésus-Christ, le Messie idéal et le réel sauveur du monde. Deuxième idée, le royaume messianique. L'espérance messianique fut d'abord associée à l'idée d'un royaume d'Israël renouvelé et reconstruit, encore plus grand encore que celui de Salomon. C'était une attente nationale, bien plus qu'individuelle, concentrée sur la manifestation parfaite de Dieu à son peuple par sa présence permanente en son sein. Israël attendait un jour de l'Éternel de longue durée. En fait, c'était l'attente d'un âge d'or, d'un royaume toujours victorieux, le règne du Messie. Ses caractéristiques étaient le jugement et le salut. Le jour de l'Éternel devait apporter un châtiment mérité à tous les ennemis du Messie et une juste récompense à tous ceux qui lui appartenaient. La tentation du peuple élu fut de croire en un royaume messianique mécanique et non moral, comme s'il devait venir automatiquement leur apporter le salut à eux exclusivement. Très tôt, les prophètes ont montré les dangers de cette idée superficielle et fausse. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Il sera ténèbres et non lumière. Amos, chapitre 5, versets 18 à 20. Bien que l'espérance d'un âge d'or ait été tempérée par la certitude de jugements rigoureux, il apportait beaucoup de joie. Les psaumes messianiques débordent d'allégresse parce que Dieu révèle dans son Messie son caractère miséricordieux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La sombre vengeance de l'Éternel est brillamment illuminée par sa lumière et son amour. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le royaume messianique, dans l'esprit de nombreux prophètes, devait être une période de complète transformation de la société et de la nature elle-même. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez !» Et montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, versets 3 et 4. Des accents plus majestueux encore, dans une prophétie mémorable, annoncent le royaume pacifique du rameau sortant du tronc d'Israël, dans lequel les animaux eux-mêmes seront bénis. Troisième idée, le roi messianique. L'attente d'un âge messianique apparut dans le peuple juif sous l'effet de la révélation divine, avant qu'il eût conçu l'idée d'un roi messianique. Pourtant, le roi et le royaume sont inséparables dans les progrès historiques de l'espérance messianique. Le roi est inséparable du royaume. Il est l'agent suprême de son établissement. Un regard en arrière montre que les deux idées sont indissolublement liées. Le Messie est aussi représenté sous les traits d'un prophète et d'un prêtre, mais l'aspect royal illumine ces deux ministères. Dans la pensée du peuple juif, du peuple de Dieu, ces offices étaient toujours étroitement associés et fréquemment combinés. Moïse prédit la venue d'un prophète semblable à lui. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et en Moïse, les deux fonctions de chef civil et de porte-parole de Dieu étaient unies comme elles le furent plus tard en Samuel. David est considéré comme un prophète par l'apôtre Pierre. Le portrait du roi messianique dans Ésaïe le présente comme revêtu de dons prophétiques par l'Esprit de l'Éternel. En ce qui concerne le sacerdoce, on voit souvent dans l'Antiquité un roi offrir aux puissances surnaturelles des sacrifices en faveur de son peuple. Le sacerdoce du Messie est ainsi compris dans sa royauté. Le psaume 110 présente ce roi prêtre en pleine lumière. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le roi messianique du psaume 2 a son trône dans le temple. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ainsi, le ministère prophétique de Moïse, le sacerdoce d'Aaron, et le trône de David sont donc inclus dans l'idée du Messie. Loin de l'Éternel est le roi, prophète, prêtre, parfait. Quatrième idée, la présentation du Messie. Il est intéressant de rassembler les différents types, images et métaphores par lesquelles la promesse du Messie fut transmise au peuple élu, et par lesquels l'espérance messianique demeure vivace. D'abord, le nom Emmanuel. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tandis que le mot original en hébreu, Alma, signifie simplement jeune femme, la Septante l'ont traduit en grec par Parthénos, ce qui signifie avec précision une vierge. Ce signe est donné à la maison de David pour lui faire comprendre que malgré le désastre qui frappera la famille royale, un jour viendra celui qui est Dieu avec nous, Emmanuel. L'enfant royal est ensuite décrit en ces termes par le même prophète. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Autre nom, c'est le serviteur souffrant. On trouve dans la prophétie d'Ésaïe une série de poèmes du serviteur qui culmine au chapitre 53. Ces poèmes s'inspirent de la situation historique du moment, mais presque tous les commentateurs y voient une prédiction de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces poèmes dépeignent un fils serviteur idéal qui se substitue à son peuple et expie ses péchés par ses souffrances. Le prophète avait sans doute, à l'avant-plan de sa vision, d'abord, sa nation personnifiée et idéalisée, ou une élite, le reste fidèle, Israël en Israël, mais c'est finalement un individu qu'il aperçoit. en qui les rabbins juifs eux-mêmes ont reconnu le Messie. Le point essentiel de cette révélation, c'est que le péché de l'homme et ses conséquences effroyables sont placées sur lui par Dieu lui-même, qui prolonge ses jours et voit dans ses souffrances un moyen par lequel beaucoup d'hommes seront justifiés. C'est ici que l'Ancien Testament pénètre le plus profondément dans le mystère de la rédemption divine. Autre terme utilisé pour parler de lui, le rejeton. Le Messie est aussi représenté sous la forme d'un rejeton, ou d'un bourgeon jaillissant de la racine davidique au moment où cette maison royale atteint le niveau le plus bas de son histoire. Cette image exprime l'idée d'une reviviscence surnaturelle et d'une renaissance miraculeuse. En hébreu, c'est le mot tzemach de la racine jaillir. En ces jours-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Autre terme, c'est le terme « fils de l'homme ». Ce titre est employé dans le psaume 8 pour exprimer simplement le fait d'être dépendant de Dieu, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est dans ce sens que ce terme est employé dans le livre d'Ézéchiel, pour désigner le prophète lui-même. Mais dans la phrase de Daniel 7, versets 13 à 14, l'explication est différente. Il s'agit ici d'un titre messianique. Le livre de Daniel est eschatologique et il fut un facteur décisif dans la formation de l'espérance messianique chez les Juifs avant l'ère chrétienne. Ce titre ne semble pas avoir été généralement employé dans ce sens au terme de notre Seigneur pour désigner le Messie, puisqu'il est évident par les évangiles que Jésus employa le terme « fils de l'homme » plutôt pour voiler que pour révéler sa messianité. Aussi le terme « fils de David ». « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2, verset 7. Le psaume 2 est reconnu l'une des révélations messianiques les plus claires de l'Ancien Testament. Il annonce le roi divin et son royaume universel. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » La vision d'une souveraineté sans limite se concentrera sur le fils de David depuis le prophète, la prophétie de Nathan, et devint un espoir messianique vivant, mais ne fut jamais une réalité historique jusqu'à ce que Jésus apparaisse comme l'héritier de cet idéal lumineux. Autre expression, les étoiles et sceptres. Je le contemple, mais non maintenant, un astre sort de Jacob, un sceptre sort d'Israël. Balaam, malgré son grossier matérialisme et son avarice sordide, fut poussé par l'Esprit de Dieu à prononcer cette prophétie remarquable en présence de Balak, qui l'avait fait venir pour maudire la race élue. Le sceptre est un emblème de royauté. La métaphore de l'étoile est une image qui apparaît aussi à la royauté. Le roi de Babylone est décrit par le prophète Isaïe sous la forme d'une étoile tombée. Ainsi, l'image familière aux voyants de l'Apocalypse qui répète les paroles de Jésus. « Je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. » Apocalypse 22, verset 16. Les commentateurs juifs ont considéré l'oracle de Balaam comme une promesse messianique, car nous avons cette paraphrase araméenne dans l'un des Targum. Un roi s'élèvera de la corne de Jacob et un Messie sera oint sur la maison d'Israël. Aucune métaphore ne suggère mieux l'espérance qu'une étoile à son lever. Les mages qui suivaient l'étoile jusqu'à Bethléem connaissait peut-être la prophétie de Balaam. Autre expression qui est utilisée concernant Christ, c'est Shiloh. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le passage est difficile, mais sa signification messianique est reconnue depuis longtemps. On en donne différentes explications. Premièrement, Shiloh serait un nom propre, un titre du Messie, l'équivalent de prince de paix. Le mot est probablement proche du babylonien Shelu, qui signifie prince. Deuxièmement, Shiloh serait un nom de lieu et désignerait l'endroit où Josué érigea le tabernacle. Le sens serait « jusqu'à ce que Juda vienne à Shiloh », c'est-à-dire qu'il reçoive à cet endroit une distinction spéciale. Troisièmement, Shiloh peut être traduit, comme dans quelques versions anciennes, par « celui à qui il appartient ». Le rabbin J.H. Hertz a traduit ce passage ainsi. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'au jour où ce qu'il possède sera venu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il vienne chez les siens et que toutes les tribus se soumettent à sa souveraineté. Dans tous les cas, l'allusion messianique est incontestable. Autre expression, l'époux royal. Voir le psaume 45. Ce chant nuptial célèbre le mariage de quelques monarques hébreux, probablement celui de Salomon avec la fille du roi d'Égypte. Le psaume est généralement considéré comme étant au fond messianique et on l'explique comme annonçant le mariage mystique du roi Messie avec l'Église, son épouse. Certaines de ces paroles semblent écrites en lettres d'or, mais elle s'applique à loin de l'Éternel par excellence. Alors, on va faire la pierre angulaire, on va arrêter là ce soir. Un autre terme qui parle de Jésus-Christ, on parle de pierre angulaire. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il s'agit tout d'abord du royaume messianique, impérissable, en contraste violent avec les royaumes d'Assyrie et d'Égypte, et même avec celui de Juda. Car le trône de David n'est que l'ombre du royaume éternel de Dieu. L'interprétation donnée par Daniel du rêve de Nebuchadnezzar peut être considérée comme une confirmation de cette thèse. Mais cette pierre éprouvée, cette solide pierre angulaire, est plus encore, elle est l'image du Messie lui-même. Elle nous présente sa personne et son œuvre. Le psalmiste utilise cette image en ces termes. Dans le psaume 118, verset 22-23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que c'est venu. C'est un prodige à nos yeux. Jésus reprend cette métaphore dans la parabole des vignerons et il l'applique à sa personne et à son rejet par les Juifs. L'idée était familière à l'Église primitive et l'apôtre Pierre y fait allusion. Sans aucun doute, quand il écrit « Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.